d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et réciproquement, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Dans cette émission de mode d'emploi avec l'équipe de la 4e dimension. Ce soir, vous êtes sur de bons rails avec Claude aux manettes, Laurent Eco au micro.
L'émission de ce soir est consacrée à l'avenir du transport ferroviaire dans le contexte actuel, celui du plan de relance, mais également celui de la nécessité de la transition écologique. Car oui, loin de l'image traditionnelle de la fumée noire et des visages couverts de suie, le transport ferroviaire est bien aujourd'hui le mode de transport le plus écologique. Beaucoup plus que l'avion et la voiture pour les passagers, et beaucoup plus que les camions pour le fret. En effet, le transport en train a bien changé depuis l'ouverture de la première ligne française Saint-Étienne-Andrézieux en 1827. Mais aujourd'hui, alors que les kilomètres de lignes ferroviaires, les petites lignes, les trains de nuit, les wagons de fret ont fondu comme glaciers au soleil, quel est l'avenir du train ? L'impératif écologique fera-t-il à nouveau siffler le train ? La précarité de la France dite périphérique ramènera-t-il le train dans les petites gares ? À moins que ce soit le Covid et la nécessité de la relance. Aujourd'hui, plusieurs milliards sont promis pour le ferroviaire. Donc, quel avenir pour le ferroviaire ? Voilà ce que nous vous proposons de voir ce soir avec nos deux invités. Bruno Gazot, président de la FNOT, la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports. Bonsoir.
Bonsoir.
Bruno Poncet de Sud Rail, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Donc vous pourrez écouter cette émission mardi prochain, hein, si vous en loupez certaines bribes dans ce soir, donc à 7h30 sur RFPP, où vous pourrez la podcaster comme toutes les précédentes sur le site internet de Mode d'emploi www.mode-d-emploi.net.
Pour commencer cette première partie, je propose de laisser la parole à nos deux invités, qu'ils se présentent et présentent leur structure de façon générale et particulière. Bruno Gazot, je vous laisse la parole.
Bonsoir.
Bonsoir.
Écoutez, je me présente, je suis Bruno Gazot, je suis président de la FNOT, qui est une fédération d'associations d'usagers. La FNOT regroupe 170 associations d'usagers, qui représente aussi bien les usagers de l'avion, cet été, même avant, et vous l'avez su, beaucoup de problèmes dans les avions, avec des billets non remboursés, des vols annulés, des compagnies aériennes qui ne sont plus crédibles. Donc on représente les usagers de l'avion, les usagers du train, qu'il s'agisse des trains du quotidien, c'est-à-dire les TER, mais aussi les TGV. Et puis évidemment, il ne peut pas y avoir de ferroviaire sans parler du fret, donc c'est un secteur qu'on suit aussi très activement.
Nous y reviendrons.
Et nous représentons aussi les usagers des réseaux urbains, donc du métro, des tramways, des bus, du vélo, des VTC, des taxis et des bateaux mouches et de quelques autres, des piétons, puisque nous avons une association sur les droits du piéton aussi qui est adhérente de la FNOT. Donc vraiment tous les usagers, sauf ceux de la voiture, qui ne sont pas représentés par la FNOT.
Voilà. D'accord.
Donc l'ensemble de ces adhérents à nos associations représentent à peu près 80 000 personnes.
D'accord, merci pour cette description. Peut-être Bruno Poncet, vous pouvez nous présenter votre organisation ?
Oui, alors moi je suis un des 13 secrétaires fédéraux de Sudrail. Nous sommes environ 11 000 militants. Nous faisons partie de l'Union syndicale solidaire qui regroupe d'autres syndicats, d'autres corporations. Nous sommes un syndicat de travailleurs du rail, c'est-à-dire que nous syndiquons aussi bien les cheminots de la SNCF, mais aussi les cheminots des entreprises privées, ainsi comme les collègues qui sont dans les TGV, qui travaillent dans les bars TGV, ceux qui font le ménage en gare, ceux qui font la sécurité. Et nous, notre rôle principal étant la défense des salariés et aussi la défense du transport ferroviaire dans toute sa globalité. Et nous, on le dit tout le temps, mais nos conditions de travail sont les conditions de transport des usagers. Donc on est régulièrement sollicité par des associations d'usagers pour mener des combats en commun. Et pour nous, ça coule de source. Voilà.
Eh ben, nous sommes heureux de vous réunir ce soir.
Alors, première question, quel est, peut-être on peut dresser un état des lieux de la situation du rail en France aujourd'hui ?
Oui, c'est une question qui est vaste, c'est difficile à mettre en quelques secondes. Il faut dire que depuis plusieurs années, voire deux dizaines d'années au moins, le rail a vécu, rencontré des difficultés qui sont liées évidemment à l'émergence de la voiture, au développement de la voiture, aux inéquités qui existent entre les différents modes, entre le mode routier et le mode ferroviaire, et puis à une persistance continue de la politique française de soutenir le secteur automobile, la construction automobile, l'usage de la voiture, avec en face du ferroviaire des lobbies extrêmement importants, depuis les assureurs jusqu'à tous les constructeurs automobiles et tous ceux qui entretiennent le système véhicule automobile, avec une tendance évidemment au développement de la mobilité qu'on a constaté quand même régulièrement. Le ferroviaire a été durement touché puisque il est passé à travers de nombreuses réformes, plus ou moins abouties d'ailleurs. Il a cru, faute d'investissement, il a dû investir. Il a investi par la voie de l'endettement que l'État lui a imposé. Donc il s'est lourdement endetté. Et aujourd'hui, évidemment, il faut remettre les pendules à l'heure. Et c'est pas simple.
On y reviendra dans une deuxième question. Comment ça se ressent au niveau utilisateur, si je donne la parole à Bruno Gazo?
Au niveau des utilisateurs, ce qui est constaté, c'est d'abord dans les trains du quotidien, parce que c'est là que sont le plus grand nombre d'utilisateurs, ceux qui prennent le train tous les jours. Ils ont constaté une dégradation très, très lente, mais très régulière de la ponctualité, de la fréquence des trains, du nombre de trains annulés. Ça n'a pas été totalement continu. On peut quand même remarquer aussi que le transfert aux régions de la responsabilité des TER a conduit les régions à rattraper un retard que l'État avait accumulé et a donc renouvelé en partie les parcs matériels. Grâce à ça, on peut aussi constater que la fréquentation du ferroviaire n'a pas cessé de croître. Et les TER ont connu une croissance très importante qui accroît d'ailleurs ses difficultés puisque plus il y a de passagers, plus il faut faire circuler le train, et plus on fait circuler le train, plus il y a de densité sur le réseau. Et ceci, évidemment, ça génère des problèmes là où dans ce qu'on appelle les nœuds ferroviaires, par exemple, où il n'y a pas suffisamment de sillons, pas de place pour faire passer les trains. Alors que par ailleurs, dans d'autres endroits du territoire, les possibilités de faire circuler les trains restent très importantes quand même. Donc voilà, on a un réseau qui a beaucoup vieilli, on le voit régulièrement avec les accidents qu'il y a. La dernière caténaire qui a cassé il n'y a pas très longtemps, datée de 1938, c'est vous dire le retard d'investissement qu'on peut constater dans des sujets aussi importants que la conduite électrique. Que l'alimentation électrique, mais ça vaut pour les caténaires, ça vaut pour les voies, ça vaut pour un certain nombre de gares, ça vaut pour beaucoup de choses. Il y a eu des retards d'investissement très conséquents qui sont partiellement rattrapés aujourd'hui, puisque il y a quelques années, on investissait encore 800 millions sur le réseau, c'est-à-dire on va investir 2 milliards et demi. Donc il y a des efforts qui sont faits.
Bruno Poncet, peut-être, est-ce que vous partagez cet état des lieux ou quel est votre avis là-dessus?
Oui, alors moi je peux partager une certaine... certains points, effectivement, il y a un réel désengagement de l'État vis-à-vis du ferroviaire au profit de la route, comme ça depuis des années, alors que des exemples européens nous montrent que le report modal, en obligeant par la loi de mettre les camions sur les trains, pour traverser un pays. Ça permettrait de désengorger les routes en France et ça permettrait de dépolluer énormément le territoire français. Et ça, c'est parfait. Il y a un vrai désengagement de l'État. Aujourd'hui, il y a l'État qui a, alors, via les transports du quotidien, a fait payer les régions.
Excusez-moi, Bruno, peut-être, est-ce qu'il y a la radio allumée chez vous ou on a l'impression qu'il y a un écho derrière
Ça ne va pas être moi, ça va être M. Gazo, je pense.
Ah non, moi, j'ai pas de radio derrière.
D'accord. Bon, ben, je sais pas. Il y a des petites perturbations. Excusez-moi.
Les aléas du direct.
Ouais, par téléphone.
Je vous disais, les régions, elles, aujourd'hui, doivent financer leur transport du quotidien. Et l'État s'est aussi désengagé des transports, des grandes lignes et des TGV, parce qu'on voit maintenant des partenariats privés-publics, comme a été fait le Paris-Bordeaux. Et tout l'argent qui devait être mis dans la région était mis sur le Paris-Bordeaux, la ligne à grande vitesse. Et donc derrière, comme vient de vous dire M. Gazo, tout ce qui était autour n'a pas été fait. Et dernièrement, le dernier gros incident qu'on a eu, c'était début septembre, là, avec la caténaire qui a rompu. Et la caténaire a rompu parce qu'effectivement, elle était vieille et qu'elle n'était pas entretenue à la hauteur de ce qu'elle devrait être, parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Donc aujourd'hui, l'État continue à mettre des pansements sur des jambes de bois. Ils se gargarisent d'avoir repris plus de 40 milliards de dettes il y a 2 ans, mais cette dette-là leur appartenait parce que c'est eux qui ont demandé à la SNCF de faire des investissements dans des lignes TGV qui n'étaient pas forcément nécessaires, au mépris des trains du quotidien. Donc effectivement, aujourd'hui, les usagers sont maltraités, les cheminots sont maltraités, et personne n'est content. Il y a un vrai besoin d'avoir une autre politique des transports en France, pas que ferroviaire, mais en tout cas, comme ça, on est sur le ferroviaire, on peut en parler. Il y a besoin d'avoir une autre politique ferroviaire et il serait temps, à un moment donné, qu'un gouvernement se penche réellement là-dessus et légifère réellement pour refaire du report modal. Et puis juste un dernier point, pour voir à quel point les derniers gouvernements se désintéressent un peu du ferroviaire, il y a la loi LOM, là, qui est la loi de mobilité qui est sortie l'année dernière. Et bien, si vous regardez bien, il y a très très peu de choses sur le ferroviaire. Il y a juste 2-3 paragraphes sur quelque chose qui fait plusieurs centaines de pages. Donc il prouve bien que le ferroviaire aujourd'hui, c'est pas la priorité des gouvernements successifs.
D'accord, oui. Alors là, on a parlé un peu du réseau et des lignes. C'est vrai qu'il y a peut-être, on peut rappeler aussi le changement de statut de la SNCF aussi.
Oui, alors on est passé en société anonyme depuis le 1er janvier. Et ce que tout le monde pensait être une bonne chose, parce que c'est vrai qu'on entend souvent dire que oui, c'est public, ça peut pas fonctionner, donc vaut mieux que ce soit privé. Sauf qu'aujourd'hui, à partir du moment où vous passez en SA, il y a des nouvelles règles. Et par exemple, pour le fret où moi je travaille, fret n'étant plus adossé à l'État, on risque à tout moment le dépôt de bilan et la faillite parce que le Covid a fait que on a fait rouler malgré tout 60% des trains, mais déjà que c'était un petit peu compliqué depuis plusieurs années, mais ça a empiré la situation. Et donc le passage en société anonyme, au contraire de permettre un réel développement du ferroviaire, c'est plutôt dangereux pour le ferroviaire français. Et nous, notre leitmotiv à Sudrail, c'est de dire que on doit avoir un transport ferroviaire de qualité et public. Et pour avoir un transport ferroviaire public, il faut que l'État s'engage à 100% là-dedans. Et il faut une entreprise unique avec un même statut pour tous les travailleurs, ce qui permettrait réellement de faire du travail de qualité avec des vrais investissements lourds et qui seraient financés par le report modal, entre autres.
Mais ce qui est intéressant, voire cynique, c'est que la SNCF avait été créée historiquement pour ces raisons-là. C'est-à-dire que c'était des compagnies privées diverses qui ne fonctionnaient pas, qui n'étaient pas rentables, qui n'étaient pas entretenues, où l'État a décidé, vous me corrigez si je me trompe, mais de les rassembler en une pour faire des investissements et avoir un service. Donc on retourne à 100 années en arrière.
Oui, c'est exactement ça, parce qu'en 36 et 37, quand on crée la SNCF, c'est pour fusionner des compagnies qui sont au bord de l'asphyxie, voire même à l'agonie. Et on se dit, en plus, il y a les congés payés qui arrivent à ce moment-là, donc effectivement, il y avait une vraie plus-value là-dessus aussi, mais on se dit, ça doit être un transport public. Et puis, 90 ans après, on dit le contraire aujourd'hui, et on voit le risque dans lequel on arrive nous aujourd'hui, c'est que, avec le désengagement de l'État, le fait qu'aujourd'hui, tout le monde considère que le transport ferroviaire doit être quelque chose de privé pour faire du rapporter de l'argent. Sauf que, vu la complexité de faire rouler un train, vu le coût des sillons, c'est-à-dire les temps de, les moments de passage sur les rails. Vu tout ça, et vu l'entretien et la maintenance qui a été abandonnée, donc à un moment, quand vous remettez dedans, ben vous avez tellement d'investissements à faire pour pouvoir remettre tout au meilleur niveau. Et en fin de compte, aujourd'hui, on se retrouve avec une entreprise qui va régler un problème à un endroit et puis qui va en déclencher 200 autres à côté. Et vous n'avez pas le financement. Vous avez une entreprise qui n'est même plus... après, il y a aussi les histoires aussi de prêts. Quand vous êtes adossé à l'État, on vous prête plus facilement de l'argent. Quand vous vous retrouvez... quand vous retrouvez une boîte privée, bah c'est plus pareil. Vous êtes subi aux règles du marché. Et les règles du marché ne prêtent qu'aux riches.
Très bien. Donc, ce qu'on retient là de votre propos à tous les deux, c'est un désengagement de l'État. Il y a quelque chose aussi sur lequel je voulais avoir des précisions parce que donc vous nous dites que au niveau des TER, ça fonctionne plutôt bien en termes de passagers. On a une augmentation du nombre de passagers. Et dans le même temps, ce qu'on entend aussi en bruit de fond, c'est que on est en train de, enfin depuis 30 ans ou davantage, les petites lignes sont fermées. Donc, quelle est finalement cette logique, enfin, s'il y en a une déjà, est-ce qu'il y a une logique et quelle est-elle?
Mais, je vais répondre à M. Gazet, mais je pense que le vrai souci, c'est que effectivement, aujourd'hui, vous avez de plus en plus de passagers dans les transports, dans certains lignes du quotidien, mais principalement dans les gros nœuds ferroviaires ou dans les grandes villes, Paris, Lyon et d'autres endroits. Par contre, cette France de l'aide de campagne, qui, elle, est abandonnée. Tout aujourd'hui, les gares sont fermées. Vous avez un nombre incalculable de gares. Aujourd'hui, vous avez 30 000 km de réseau. L'État est en train d'essayer de se désengager d'environ quasiment un tiers. Donc, un tiers sont en danger. Un tiers de gaffe-tête aujourd'hui. Alors, il y a des appels d'offres qui sont ouverts, et ça, on pourra en parler plus tard, mais les appels d'offres aujourd'hui, où dans l'appel d'offres, on met aussi bien l'exploitation de la ligne ferroviaire que sa maintenance. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça va être très compliqué d'entretenir toutes les lignes au même niveau. Donc, on va certainement favoriser les lignes les plus rentables. Et puis, les autres, on mettra des quarts dessus. Et donc, c'est ça aujourd'hui, ce qu'on nous propose comme transport du quotidien en ferroviaire sur beaucoup de liaisons. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a... Et c'est vrai que vous avez raison, c'est schizophrénique, mais on n'arrête pas de parler des trains du quotidien. On n'arrête pas d'essayer de mettre les gens à prendre ces transports moins polluants plutôt que la voiture, et derrière, on supprime des lignes. Donc, à un moment donné, vous continuez à inciter les gens à prendre leur voiture parce qu'ils n'ont plus les dessertes qu'ils ont besoin, ils n'ont plus les arrêts de la gare à côté de chez eux. Et ce qui fait qu'à un moment donné, le train devient moins pertinent pour eux à mesure que vous habitez loin des grandes villes.
Très bien. Est-ce que M. Gazot, vous voulez reprendre sur ce sujet-là, effectivement,
oui,
donner un point de vue plus utilisateur?
Qui résulte de toutes les réformes successives qui sont allées en avant puis retournées en arrière pour réavancer. Enfin, c'était assez compliqué. Enfin, aujourd'hui, la situation est la suivante. C'est-à-dire, il y a d'une part une société anonyme de droit public qui gère le réseau, c'est-à-dire les rails et puis les systèmes d'alimentation, enfin tout ce qui permet de tout ce qui est au sol, disons. Et puis une société anonyme également qui s'appelle SNCF Mobilité, qui elle fait rouler les trains. Donc il y a plusieurs types de trains. Il y a les trains à grande vitesse que tout le monde connaît bien, il y a les trains intercités qu'on connaît moins et qui ont beaucoup disparu, en partie parce qu'on les a supprimés, en partie parce qu'ils ont été ou sont en train d'être transférés aux régions. Et puis depuis quelques années, depuis déjà une quinzaine d'années, il y a les transports régionaux qui eux sont de la responsabilité des régions, qui définissent le service qu'elles veulent, qui définissent la tarification, et puis qui confient à la SNCF aujourd'hui, jusqu'au 1er janvier 2020, et sans doute jusqu'au 1er janvier 2023, puisque maintenant, les régions ont la possibilité de mettre en concurrence des entreprises ferroviaires pour exploiter une ligne, deux lignes ou un groupe de lignes à partir du 1er janvier 2020. De même, l'État a lancé des appels d'offres sur ses intercités. Enfin,
annoncé son intention de le faire. Il n'a pas encore publié le cahier des charges, mais ayant régénéré ou étant en voie de régénérer des lignes qui étaient quand même très bon état, comme Nantes-Lyon, Nantes-Bordeaux, sur ces deux lignes-là, elle a lancé des appels à concurrence, enfin, des appels d'offres, hein, et elle octroiera en tant qu'autorité organisatrice à des conditions évidemment qui peuvent être au risque et péril de l'opérateur ou au contraire sous la forme de délégation de service public, c'est-à-dire avec une contribution de l'autorité organisatrice parce qu'elle définit un cahier des charges dont elle veut par exemple, je ne sais pas moi, 5 allers-retours et que les opérateurs ne proposent plus 4 parce qu'au-delà de ça, ça leur coûterait de l'argent, et bien à ce moment-là, l'État, enfin, la personne concédante, si c'est la région, c'est en région, si c'est pour ces lignes intercités, c'est l'État, compense par une subvention, et tenu donc le risque de l'entreprise qui exploite. Vous voyez bien, dans ce cas-là, c'est la collectivité, qu'il soit État, autorité organisatrice ou région, qui définit ce qu'est le service public, puisque c'est elle qui dit ce qu'elle veut, c'est elle qui fixe le rythme et la fréquence sur les lignes, c'est elle qui fixe les tarifs, et c'est elle qui fixe la qualité de service, et c'est elle même qui fixe les standards de l'information voyageur. Donc ces autorités organisatrices sont très importantes, puisque c'est celles qui peuvent répondre aux besoins de service, à la qualité de service. Et ensuite, elles sont très importantes parce que c'est elles qui contractent avec les entreprises ferroviaires, qui leur rendent des comptes, alors plus ou moins bien, et en revenir. Donc, ils doivent leur rendre des comptes, et rendre des comptes, évidemment, aux usagers. Donc, dans tout ce process, il est très important que les usagers soient évidemment consultés sur quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes, qu'est-ce qu'ils attendent en termes d'informations voyageurs, qu'est-ce qu'ils attendent comme tarification. Il faut que, évidemment, les tarifications soient attractives pour qu'ils puissent prendre le train. Il faut que ça corresponde à leur capacité financière. Donc voilà, les trains de vie du quotidien, aujourd'hui, sont extrêmement importants pour toutes ces raisons. Alors, tout ça dans un contexte où la compétition entre les modes continue, c'est-à-dire, si vous voulez, le train paye ses sillons, hein, donc là, cet réseau fait payer des tarifs comme les autoroutes font payer un droit de passage, elles font payer un droit de passage au train et un droit d'arrêt dans les gares, moyennant quoi, elles ont un chiffre d'affaires qui leur permet théoriquement de régénérer le réseau. Bon, on sait bien que les recettes des sillons ne suffisent pas à entretenir le réseau, il faut donc que l'État contribue également à générer le réseau. Et aujourd'hui, je disais tout à l'heure que cette année, on va sans doute avoir à peu près un peu moins de 3 milliards d'investissements, alors qu'il y a quelques années, on investissait 800 millions sur le réseau. Mais malgré cet effort, qui est conséquent, qu'il faut reconnaître, tous les experts considèrent qu'il manque encore au moins 1 milliard pendant une dizaine d'années par an pour pouvoir éviter que le réseau ne vieillisse trop et en tout cas ne finisse pas.
D'accord.
Beaucoup d'efforts restent à faire.
D'accord. Donc, pour résumer, un désengagement de l'État, une montée, un transfert vers les régions avec une ouverture au privé, ce qui redéfinit finalement le service public tel qu'il était auparavant. Et en parallèle de cela, on a aussi une dégradation de la qualité du réseau avec des investissements insuffisants. On va faire une première pause musicale dans cette émission et puis on vous retrouve tout de suite après. Toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, l'émission Mode d'emploi animée par l'équipe de la 4e dimension est consacrée aux ferroviaires. On vient d'écouter les blaireaux de Ravel dans les gares. Et ça fait du bien d'écouter de la musique jouée en public, vu qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment la possibilité d'aller voir des concerts. Et dans les gares, moi, ce que j'aime, c'est l'idée de foutre le camp. Il y a aussi toute cette dimension poétique dans le voyage ferroviaire qu'il ne faut pas oublier. Alors, on va se relancer dans l'émission ferroviaire juste après une petite pastille d'humeur de Corentin que je vais laisser s'exprimer.
Eh oui, histoire banale. Hier, j'ai reçu un courrier avec une Marianne. Vous savez, l'histoire de ces petits courriers où il y a le cachet de l'État français. C'est rarement un carton d'invitation pour Disneyland. Là, rien de bien majeur, une contredanse, mais quand même, c'est 10 km/h, 5 km/h retenu. Ça m'a mis mal, envahi d'un sentiment de vanité, d'énervement. Et ça résonnait avec mon enfance, mes punitions quand j'étais petit. Et je pense que c'est pareil pour vous. Mais moi, je me souviens pas franchement d'une fois où j'ai eu une punition, ou même cette contredanse, où j'ai ressenti une culpabilité à me dire « Oh, j'aurais pas dû ». J'étais plutôt dans la rébellion, l'énervement, voire des fois la tristesse. Mais jamais un sentiment bien positif, ni un changement intérieur en est jamais ressorti. Et voilà, je pense que c'est pas quelque chose qu'on a envie de nous de faire ressentir à d'autres. Quand on s'énerve, quand on punit, on fait pas ressortir le meilleur de chacun. Et c'est prouvé, la punition ne marche pas vraiment, voire des fois vraiment pas. Mais bon, on continue. Ce qui est marrant, ou d'ailleurs pas, c'est qu'à l'échelle de l'État, les résultats sont les mêmes. On peut se rappeler de Sarko qui, avec sa démago, sa politique de répression, de punition, action-réaction, a eu des résultats catastrophiques en termes de sécurité. D'ailleurs, ça semble logique. Est-ce que dans le fond, quand l'État dit « ben, je vais être féroce, agressif », ça donne pas le message à la population, la bonne solution face au problème, c'est d'être féroce et agressif. Et on s'est retrouvé avec cette France déchirée, style Karcher contre Karcher. Et je mettrai un petit sac de billes sur la table que notre cher Darmanin, qui vogue sur cette vague pas forcément bonne, voire putride, ne s'en sortira pas mieux. Et le pire, c'est que ça fait ressortir le mauvais en nous. Et si cette réflexion, voilà, pas pertinente, que si un petit problème est géré par une petite punition, les problèmes affreux sont gérés par des punitions affreuses. Et on revoit, hop, comme ça, 50%, 55% même de la population française qui se retrouve pour la peine de mort. Alors oui, c'était bien forcément quand on jetait des choux, des crachats, des patates au gars sur une charrette en route vers la guillotine. Non, retour 50 ans en arrière, ce n'est pas nécessaire. Stop, aux États-Unis, la peine de mort est toujours en cours. Il y a un taux d'homicide incroyable. On sait que c'est inefficace, les études le montrent. C'est une pratique moyenâgeuse où un État décide de la vie et de la mort. Pourquoi ne pas rétablir le droit de cuissage, la gabelle ou autre boniment de ce style ? Et puis, dans cette France déchirée où les pulsions de vengeance sont déjà là, les rétablir en mettant la peine de mort en place qui est le vecteur de tout ça, est-ce qu'on veut vraiment ça ? On est dans une France sans empathie, sans amour. La compassion n'est pas déjà dans notre top 5, donc arrêtons cela. Du coup, coupons la tête à ces idées d'un autre âge et restons humains encore un peu, s'il vous plaît.
Voilà, c'était la pastille d'humeur de Corentin. On va repasser donc à notre sujet du soir, consacré au ferroviaire. Alors, on a expliqué un peu la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui sur le transport ferroviaire. Alors, il y a ce plan de relance là, post-Covid, où on a donc 100 milliards qui sont débloqués, dont environ 5 pour le transport ferroviaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous le détailler, Bruno Gazeau?
Oui, pour autant que je connaisse l'intégralité de l'équation budgétaire, parce que le plan de relance est assez compliqué.
Est-ce que c'est clair déjà ? Est-ce que les annonces ont été claires ?
Alors, il y a 4,9 milliards de mémoire pour le ferroviaire et 1,2 milliard pour les transports urbains et le vélo. 4,7 pour le ferroviaire, je dirais 1,2 pour les transports urbains et pour le vélo. Alors ces milliards recouvrent une partie de la dépense ferroviaire, parce qu'il y avait il y y a déjà une ligne budgétaire dans votre finance qui couvre les investissements sur les infrastructures nouvelles ou à rajeunir sérieusement. C'est l'enveloppe qui existe annuellement tous les ans pour entretenir le réseau. C'est bien, c'est pas de l'argent supplémentaire nouveau. Il y a également un contrat de performance qui lie SNCF Réseau et Bercy, enfin l'État, qui est un contrat qui est signé pour 5 ans et qui prévoit, ou pour 10 ans, et qui prévoit un investissement de 36 milliards sur 10 ans, c'est-à-dire 3,6 milliards par an pour rénover le réseau, régénérer le réseau. Alors, on n'en est pas encore au 3,6 puisqu'il commençait à 2,9, c'est ce qu'on a cette année, qu'on doit avoir cette année, il doit monter jusqu'à 3,6 et même un peu plus. Alors, il faut dire que le plan de relance confirme ces crédits qui n'étaient pas tout à fait garantis à hauteur de ce qu'on nous disait, c'est-à-dire 2 milliards 9. Donc là, ils vont être à peu près garantis par le plan de relance. Il les accroît même un petit peu parce qu'il a remis un peu de rallonge sur un système qu'on appelle le RTMS, qui est une façon de moderniser l'information sur la circulation des trains, et en particulier qui permet de faire circuler de façon plus rapprochée. Et puis, il fait quelques ouvertures nouvelles sur un effort sur le fret à hauteur de 300 millions, mais c'est loin de ce que réclame la profession du fret, hein, qui réclamait 1,5 milliard par an. Bon, alors il y a un peu de double compte avec l'entretien des voies, puisque il réclame aussi l'entretien d'un certain nombre de voies de fret dites capillaires. Enfin, il y a 300 millions qui sont nouveaux quand même pour le fret. Il y a 100 millions pour les trains de nuit. Donc ça, c'est une nouveauté, puisque jusqu'à présent, on fermait tous les trains de nuit parce qu'ils n'étaient pas rentables. Ouais. Il en reste que deux et qui sont en difficulté parce qu'ils circulent la nuit. Donc en même temps que les périodes où on fait les travaux, comme pour le fret d'ailleurs, ils ont beaucoup de mal à circuler à cause de ça. Et ensuite de ça, alors, pour les trains de nuit, on n'a plus de voitures. Hein. Les voitures ont été vétustes, elles n'ont pas été non plus modernisées. Et celles qui restent sont en train d'être modernisées pour pouvoir assurer les deux liaisons qui sont garanties, qui sont Paris-Briançon et Paris-Toulouse, la Tour de Carole. Bon. Donc là, l'État a prévu de faire deux lignes supplémentaires, de rétablir le Paris-Nice en train de nuit et de rétablir le Paris-Tarbes en train de nuit, mais dès lors que les voies sont améliorées, dès lors qu'on trouve des voitures et dès lors qu'il est répondu à la question, est-ce que ces trains doivent circuler au risque et péril des opérateurs, ou est-ce qu'au contraire, ils rentrent dans une catégorie de trains, c'est-à-dire qui sont subventionnés par la puissance publique ou par les collectivités territoriales. Mmh. C'est déjà le cas du Paris de la Tour de Carole, par exemple, puisque l'État supporte le déficit du Paris-Toulouse et la garantie est donnée pour la partie Toulouse de la Tour de Carole par la région Occitanie.
D'accord. Ouais.
Donc, vous voyez, on est dans un modèle économique pour le ferroviaire qui n'est pas trouvé encore. Il a été pour le TGV qui a dégagé des bénéfices importants parce que c'était un transport de masse qui roulait sur des voies, un réseau nouveau et en bon état, qui ne demandait pas trop d'entretien au début, qui a eu beaucoup de succès, donc il y a eu des taux de fréquentation considérables, des taux de remplissage supérieurs à 80-90%, et donc qui dégageait à peu près 500-600 millions de bénéfices par an. Ces millions de ventes alimentées, évidemment, la régénération du réseau et le déficit des trains intercités. Quand il y en avait, parce qu'il n'y en a pas toujours. Sur les lignes normandes, par exemple, les lignes intercités étaient quasiment à l'équilibre, ou sont quasiment à l'équilibre. Donc, cette question du modèle économique reste pendante, et elle reste également pendante pour les trains de nuit, puisqu'on voit, par exemple, des trains de nuit venir d'Autriche. Enfin, les Autrichiens et les Suisses sont un peu en avance sur le réveil du train de nuit, mais ce sont des trains de nuit qui sont quand même subventionnés, ou auquel il est apporté des aides publiques.
D'accord, ouais.
Alors, donc c'est un vrai problème pour demain. Et ce problème de modèle économique ne peut pas être séparé du fait que le train paye toujours son sillon, hein, c'est 40% de son prix, et il est en compétition largement avec la voiture, enfin, majoritairement avec la voiture, qui ne paye que la route, que l'autoroute, mais qui ne paye pas la route. On circule sur le réseau ou en ville sans payer.
Et quelque part, le transport en voiture est subventionné de cette façon-là, puisqu'on ne paye pas les infrastructures.
Il est souvent défiscalisé, en tout cas. Et pareil pour l'avion. L'avion, évidemment, voilà, la situation situation est particulière, oui, COVID, encore, ils bénéficient d'aides, soit des collectivités pour leurs aéroports ou pour le subventionnement de certaines lignes, voire d'une défiscalisation, puisque le kérosène ne paye pas de TVA. Ouais. Donc voilà, on est dans un système pour la mobilité où vous avez des modèles qui sont subventionnés, c'était le cas du ferroviaire ou des transports urbains, et des modèles qui sont défiscalisés, et on a du mal, et l'État ne fait pas, a besoin ou devrait remettre un petit peu à plat ces systèmes pour que la mobilité soit organisée au mieux des intérêts du contribuable et des usagers.
Bruno Poncet, qu'est-ce que vous en pensez, vous, chez Sudrail, du plan de relance là ?
Le plan de relance, quand on le regarde un petit peu, on se rend compte que c'est surtout ils ont mis bout à bout des promesses qu'ils avaient faites avant.
D'accord, oui.
Qui n'avaient pas été tenues. C'est aussi des trous dans la raquette de la réforme de 2018. Par exemple, dans le plan de relance, vous avez par exemple environ 100 millions pour l'arrêt du glyphosate. C'est-à-dire qu'en ce moment, la SNCF, on a le glyphosate. Ça coûterait 100 millions de l'arrêter. Donc, dans le plan de relance, on a mis un financement pour arrêter progressivement le glyphosate, à l'utilisation du glyphosate dans les entreprises SNCF. Donc, vous avez aussi, par exemple, alors moi, je peux parler encore plus du fret parce que c'est ma partie initiale, mais par exemple, vous avez dans le plan de relance sur le fret, vous avez vu des annonces du Premier ministre qui disait qu'il allait relancer le Perpignan-Rungis, ce qui est un petit peu démago parce qu'il est Perpignan, M. Castex. Donc, forcément, il a acheté un peu la paix sociale dans son quartier. Mais alors un Perpignan-Rungis, et malheureusement, ça fait des années que les camions ont remplacé ce train. Donc pour le relancer, il va falloir trouver de la marchandise à mettre dedans, et pour l'instant, il n'y en a pas. Ils ont parlé aussi de créer deux autoroutes ferroviaires supplémentaires, mais ça fait quand même depuis 2013 qu'elles sont annoncées, on les attend toujours. Et donc ça reste des propositions depuis plusieurs années, et on les écrit sur un bout de papier en disant « bah voilà, c'est dans le plan de relance ». Sauf que pour l'instant, il n'y a rien d'acté. Et en même temps qu'il annonce la création de deux autoroutes ferroviaires, alors les autoroutes ferroviaires, pour être clair, c'est les remorques des camions qui sont mises sur des wagons spéciaux pour traverser la France. C'est un modèle qui devrait être développé, mais qui pour l'instant vivote. Et au moment où il annonce la création de deux lignes d'autoroutes ferroviaires, il y a deux lignes qui sont supprimées, deux origines et destinations. Donc ce qui fait qu'en fin de compte, on est toujours dans des effets d'annonce. Et effectivement, sur les 4,7 milliards qui sont annoncés, quand vous faites le détail, vous vous rendez compte que c'est beaucoup de choses que la loi ferroviaire n'avait pas réglé, et d'autres choses qui avaient été prévues dans les contrats de performance, comme l'a dit M. Gazot, et autres annonces avant le Covid. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne résout pas les problèmes, on en crée des nouveaux, parce qu'évidemment, il y a toujours une contrepartie à ce que quand l'État donne quelque chose. Et nous, la contrepartie, on l'a fait, ça va être des suppressions d'emplois, ça va être soi-disant affiner notre modèle social. Alors qu'aujourd'hui, on est dans un modèle social qui comporte un taux d'encadrement surdéveloppé, ce qui est quand même particulier pour une entreprise de transport. Mais bon, c'est la façon de gérer de l'entreprise depuis plus de 20 ans. Et donc, ces annonces de relance ne répondent en rien aux vraies interrogations et réellement à relancer le ferroviaire. Et comme je vous disais tout à l'heure, si vous voulez relancer le ferroviaire en France et l'autofinancer, il n'y a que le report modal pour le faire. C'est-à-dire que vous prenez l'exemple de la Suisse qui impose aux camions de traverser le pays sur des wagons. Eh bien, juste de faire ça et d'empêcher donc les camions de rouler sur le territoire suisse, eh bien, ils arrivent à auto-gérer et auto-financer leur système ferroviaire. Et ils dégagent même des bénéfices. Mais par contre, il faut une vraie loi, il faut inciter les gens, il faut obliger les gens et les chargeurs à mettre les camions sur les trains. Et pour l'instant, c'est pas la volonté de l'État. Qui continue à se plier face au lobby routier. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, l'ancienne ministre des Transports, Mme Borne, était quand même à côté de Mme Royal quand ils ont annulé les cotaxes, supprimant ainsi, de fait, des rentrées d'argent qui pouvaient permettre de développer le ferroviaire et d'entretenir le réseau, ce qui avait été annoncé avant. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes ces mesures, tout ce qui nous est annoncé... pour nous paraît largement dérisoire et surtout, comme le dit M. Gazot, mais ne résout en rien le modèle économique qui pourrait être un modèle économique vertueux si demain vous incitiez réellement un vrai développement du ferroviaire et puis surtout arrêter de baser un modèle économique des transports en France sur le coût routier.
D'accord, oui. Donc, ce que je comprends, c'est que ce plan de relance, à la fois, il reprend des annonces déjà qui étaient déjà en fait finalement dans les tuyaux, quoi.
Un bon copier-coller.
Et puis finalement, il change pas le modèle, quoi. Donc, on est sur quelque chose de pas forcément, qui va pas résoudre les problèmes et qui est pas forcément pérenne, quoi.
C'est exactement ça.
Alors, vous avez parlé de la Suisse. Pardon, oui, allez-y.
C'est un premier pas avec ce plan de relance. Mais la meilleure façon de marcher, c'est encore la nôtre. Hein. C'est une fois qu'on a fait un premier pas, c'est d'en faire un autre. Donc, il faut qu'il en fasse d'autres pendant 10 ans, de même nature, pour répondre au défi du changement climatique et le chemin de fer doit tenir sa place dans ce défi, bien sûr.
Alors, vous avez parlé de l'exemple de la Suisse. Alors, on va dans la dernière partie de l'émission, on va accueillir justement un représentant de Suisse, donc un Helvète. Donc on va faire une courte pause musicale en écoutant les Ogres de Barbac.
Ils ont le ciel pour lui et la terre pour toi, une paire de mains pour outil qui jour à jour les ravitaille de musique et de couleurs, de peine et de gaieté, une larme et parfois le bonheur et le sourire, la méchanceté dans un regard.
Toujours sur Paris Fréquence, Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, l'émission de la quatrième dimension est consacrée au ferroviaire.
Alors, nous allons accueillir un troisième invité, Manuel Lohmeyer.
Bonsoir.
Alors, je vous laisse vous présenter.
Oui, je suis suisse-allemand à la base. Et j'ai fait un film sur les trains, sur le démantèlement ferroviaire en France.
Voilà, donc c'est très intéressant. C'est pour ça qu'on vous a demandé de participer à cette émission. Et nos invités, c'est Bruno Poncet, je crois, qui évoquait l'exemple de la Suisse, notamment pour le fret. Donc, votre regard helvète sur la situation française est assez intéressant. Et alors, est-ce que vous pouvez nous décrire votre projet ?
D'accord, bon, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, quand j'étais enfant, on allait tout le temps en France, en train, en vacances. Et déjà là, c'était frappant. J'ai vu ce délabrement du réseau, d'une grande partie du réseau secondaire. Et ça m'a choqué. Et aussi mon père, c'était un écologiste qui, ça l'a assez intrigué de voir à quel point c'est maltraité, c'est en mauvais état. Les soi-disant petites lignes. Et en plus, Bessèges, surtout là où j'allais, où le Limousin, tout ça, ça m'a fasciné. J'ai adoré la France, ses paysages. Et du coup, c'était un peu le pays de mes rêves.
Donc à Bessèges, hein, c'est ça, dans les Cévennes. Bessèges dans les Cévennes, c'est ça ?
Exactement, oui, ouais. Tout à fait. Et après, plus tard, je suis retourné en France. J'étais toujours fasciné par la France. Et déjà, à 15 ans, j'avais vu à quel point il y a peu de trains. Pour moi, en tant que Suisse en tout cas, j'étais demandé aux agents SNCF pourquoi il y a si peu de trains dans votre pays. Et ils m'ont dit un peu, c'est un grand pays, c'est plus difficile à se rentabiliser dans un grand pays où vous êtes riche, les Suisses, vous avez de l'argent. Mais ça ne m'a pas satisfait. Et je voulais comprendre pourquoi c'est comme ça. Et plus tard, en 2011, je crois, j'ai fait un voyage vers le Portugal, et je me suis dit, je vais prendre la ligne de train qui est le plus proche de la ligne vol d'oiseau. Et je vais toujours rester sur cette ligne de train et pas prendre de bus. Du coup, j'ai fait ça. J'ai déjà constaté, on trouve que c'était compliqué avec les correspondances. Il y a très peu de correspondances en France. Et c'était difficile à trouver, car le propre site de la SNCF ne trouvait pas leur petite gare dans le réseau. Du coup, c'était très compliqué à planifier ce voyage. Et après, j'ai constaté que sur le site des trains suisses, on trouve les petites gares en France. On ne trouve pas sur SNCF Voyage. Du coup, je me suis dit, il y a quelque chose qui est bizarre. Du coup, je suis parti. J'ai mis 3 jours pour atteindre la frontière espagnole. Et j'ai constaté qu'il y a très peu de correspondances. Des fois, il y avait des bus en parallèle, des trains, et des horaires très compliqués.
Donc vous n'avez pas pris le TGV.
Lundi, mais pas jeudi, mais sauf le 24 août, des choses comme ça. C'était pas compréhensible. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font là? Et en plus, j'ai eu l'impression que la SNCF, elle a aucune ambition dans ces soi-disant petites lignes. Du coup, c'était, ça m'a frappé. Et j'ai vu des autoroutes à côté avec des voitures. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi le train va si mal en France? Après, je suis rentré en Suisse. Je me suis dit, je fais un film, comme je suis réalisateur de film, je vais faire un film sur ce thème. Et j'ai eu une bourse pour le développement de ce projet. Ce qui m'a permis de retourner pendant des semaines et des mois chaque année en France pour trouver des réponses. Voilà. Ça fait un début.
Oui. Alors, peut-être Bruno Poncet, Bruno Gazo, vous reconnaissez un peu ce que dit Manuel Lohmeyer.
Oui, et c'est édifiant parce que monsieur vient d'un pays où le ferroviaire est développé. Alors on peut, il est tombé sur mes collègues qui ont répondu assez simplement. C'est vrai, mais c'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de politique. Et quand vous avez vraiment envie. En plus, nous, en France, on avait un réseau ferroviaire qui est en étoile, qui part tout de Paris. Alors après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est comme ça. Et on couvrait tout le territoire français. La SNCF peut couvrir tout le territoire français par la Corse. Aujourd'hui, ce n'est plus la SNCF qui entretient et qui gère et qui exploite. Et on avait des dessertes dans toutes les petites gares. Enfin, tout le monde pouvait prendre le train partout. Et dans les années 70, avant la crise du pétrole, on a voulu développer le tout route, le tout camion, le tout voiture, et au détriment du train, alors qu'aujourd'hui, quand on voit dans quel état est la planète, et qu'à partir de fin juillet, début août, on a déjà utilisé toutes les ressources de l'année, on peut quand même se dire que le ferroviaire reste la meilleure solution pour les transports du quotidien et même sur les transports grandes lignes. Et c'est vrai que l'exemple suisse est quand même très parlant parce que eux ont une vraie législation pour obliger les camions à aller sur les trains. Ça marche très bien, c'est autofinancé. Nous, on ne demande pas mieux en France. Hein. Et on n'est pas les seuls à le réclamer, mais aujourd'hui, l'État préfère empocher des millions sur les taxes sur l'essence ou autre. Parce qu'on ne peut même pas dire que l'État prenne de l'argent sur les autoroutes. Vous l'avez vu dernièrement, dans quelques années, les actionnaires des sociétés d'autoroutes seront multimilliardaires. Et alors que c'était quelque chose qui pouvait rester dans le giron de l'État français et rapporter de l'argent et peut-être permettre de développer d'autres moyens de transport. Donc effectivement, quand on vient d'un pays comme la Suisse et quand on voit dans quel état est le réseau français aujourd'hui, oui, effectivement, on doit se poser des questions. En plus, on doit se demander, mais ces Français sont-ils fous?
Bruno Gazo, peut-être, comme vous représentez les usagers, moi, ce que dit Manuel, je ne l'ai pas vécu à ce point-là, mais voilà, ça résonne un peu, quoi.
Le diagnostic est juste. D'ailleurs, l'état du réseau des 30 000 km de ligne a été fait par l'École polytechnique de Lausanne il y a quelques années. C'est ce qui a conduit justement à ce réveil des gouvernements successifs pour régénérer le réseau. Donc on n'en est plus là, plus tout à fait là. Et donc la prise de conscience, c'est un peu faite quand même. Par contre, ce qui n'a pas été suffisant comme prise de conscience, c'est la sauvegarde des trains intercités de jour et de nuit, et puis, malgré les efforts des régions, le maintien de l'ensemble du réseau de petites lignes, y compris du capillaire voyageur. Alors derrière ça, il y a en réalité plusieurs types de lignes. Il y a des lignes qui sont périurbaines, et aujourd'hui, toutes les métropoles ont besoin d'un maillage ferroviaire, parce qu'il y a encore des voies, il y a encore des gares, et il faut absolument redévelopper ces RER métropolitains. On voit que ça devient à la mode, hein. Les élections municipales ont parlé de ça à Bordeaux, à Toulouse, à Strasbourg, à Nantes. Donc dans pas mal de métropoles, la notion même de RER métropolitain a été évoquée. Les trains intercités, on a commencé à les voir se réveiller. Il y a d'ailleurs, je le disais en début, des appels d'offres sur le sujet. Il y a aussi des lignes. Il faut voir qu'il y a quelques... Au début du gouvernement, ils ont fait un premier rapport à M. Spinetta qui a proposé tout de suite de fermer les petites lignes, 7000 km de petites lignes. Bon, il a été assez facile quand même, ça n'a pas été facile, enfin, on l'a réussi à le faire, montrer que les petites lignes, vu de Paris, elles étaient petites, mais vu de chaque territoire. Elles étaient extrêmement importantes puisqu'elles permettaient d'irriguer le territoire, elles permettaient aux gens de se déplacer, de se rabattre en voiture ou en vélo sur des petites gares, de prendre le train. Et donc, ils sont assez dépendants du train. Et si aujourd'hui, on veut réduire la dépendance automobile, on est obligé de passer par le train. On est obligé de, pour y répondre au changement climatique, il faut maintenir le train et pour réduire la dépendance automobile. Et donc, le recours aux énergies fossiles, il faut impérativement passer par le train, donc les maintenir. Donc aujourd'hui, on est plus dans la logique de tout fermer, on est dans la logique d'essayer de sauvegarder. Et puis après, il y a le problème qu'évoquait monsieur. Un réseau, c'est un système, c'est un maillage. Si on supprime des lignes, eh ben, on détricote. Et donc, quand il y a des travaux, ben, on ne peut plus faire circuler les trains. Si vous n'avez pas un système cadencé de dessertes, eh ben, les gens ne s'y retrouvent pas dans les horaires. Donc, ben, c'est plus facile de prendre sa voiture, et ainsi de suite. Hein, donc, il y a après toute une organisation du système ferroviaire. Alors, la Suisse a l'avantage de le faire à l'échelle d'une région française, et pas à l'échelle d'un pays grand comme la France. Donc, c'est un petit peu plus compliqué quand même chez nous. Mais
c'est une question de volonté politique, c'est ça.
Voilà, mais c'est peut-être plus facile d'avoir une volonté politique.
Et dans les années 60, il y a Georges Pompidou qui a dit « Je veux que chaque Français ait une voiture ».
Oui, mais c'est ce que je disais en début. Depuis ce temps-là, on a toujours sauvegardé le secteur automobile. Mmh. Et là encore, dans le plan de relance, on a dit il faut vraiment sauver l'industrie automobile, il faut l'aider à passer vers des voitures plus propres, hybrides ou hydrogène. Pareil pour l'avion.
Pareil pour l'avion, ouais.
Et on les recapitalise. Mmh. Et personne n'a dit il faut recapitaliser la SNCF. Personne n'a dit, en dehors d'un plan de relance qui est pas négligeable mais pas suffisant, qu'il fallait évidemment continuer d'investir à hauteur des besoins.
Ouais. Manuel Lommeyer, peut-être. Oui. Alors, parce que là, l'émission,
oui,
l'émission touche à sa fin. Est-ce qu'on peut voir votre film? Où est-ce qu'on peut voir votre film? Il est passé, je crois, sur France 3.
Il est passé à France 3, Occitanie.
D'accord.
J'espère que France 3 de la région parisienne va le diffuser aussi.
D'accord.
On attend la réponse.
Ouais.
En replay, c'est possible de le regarder.
D'accord.
Et après, c'est surtout sur la SNCF et le rôle de la SNCF dans le démantèlement de ce que parle le film.
D'accord.
Et peut-être en 30 secondes, Monsieur Poncet, Monsieur Glazo, un mot de la fin sur cette problématique ferroviaire.
Sur le futur, sur ce qu'il faut faire.
sur ce qu'il faut faire, je pense qu'on vient d'en parler.
Ouais.
Et c'est surtout rappeler que pendant le Covid, mes collègues ont été sur le terrain. On a fait rouler pour le fret 60% des trains parce qu'on nous dit que c'était vital nation, vital pandémie. Que mes collègues ont fait rouler les trains du quotidien pour emmener les soignants et tous ceux qui étaient obligés de travailler. Mmh. Et qu'on on a peiné à nous applaudir parce qu'à chaque fois que les politiques intervenaient à la télé, ils parlaient jamais des cheminots, mais ils parlaient de toutes sortes de métiers. Mais on nous a dit que oui, on était l'avenir, qu'il fallait nous développer. Et puis regardez, à peine 6 mois après, c'est déjà oublié. On nous fait des mesurettes et puis bientôt, là, les ouvertures, les appels d'offres pour l'ouverture à la concurrence sur les TER est en train d'arriver. On se rend compte qu'il y a une vraie volonté de démanteler l'entreprise historique. Donc nous, on n'arrêtera pas de se battre. On a encore fait, là, en lien cette semaine, par exemple, une manifestation dans le Nord pour demander la rouverture d'une gare qui était fermée depuis quelques temps avec des associations d'usagers. Voilà, nous, on va continuer le combat. Et l'exemple de la Suisse et d'autres exemples nous prouvent tous les jours qu'on a raison.
D'accord, merci. Bruno Gazo, un mot de la fin.
Je dirais que le système ferroviaire, c'est un tout, c'est-à-dire qu'il fonctionne, le système ferroviaire, quand il y a un maximum de trains qui circulent. Donc il faut des trains de fret qui circulent, il faut des trains intercités, il faut des trains de nuit, il faut des trains TGV, il faut des trains du quotidien. Et je dirais que le plan de relance, c'est un premier pas qui est fait pour le ferroviaire et il va être fait, donc ça c'est bien, mais il faut faire beaucoup d'autres pas pour sauver l'humanité et répondre aux défis du changement climatique. Et c'est de ça qu'il faut prendre conscience. Et pour ça, il faut que l'équité entre les modes fasse que systématiquement, on ne prenne pas l'avion et la voiture parce que c'est plus facile et moins cher. C'est pas admissible qu'on ait des vols à 40 euros, alors que c'est plus cher que, alors que c'est moins cher que le train pour aller de Paris à Nice. Ça, c'est pas acceptable. C'est
malheureusement, l'émission
touche. Le modèle économique n'est pas équilibré, quoi.
Merci beaucoup.
Oui, merci. L'émission touche à sa fin. Désolé de vous couper, mais l'heure, c'est l'heure en radio. Encore merci à tous de votre intervention. Vous pourrez donc nous réécouter sur le site web de Mode d'emploi. Le prochain numéro de Mode d'emploi animé pour la quatrième dimension, ce sera dans le quatrième vendredi du mois. Encore un merci à tous pour vos interventions.
Et puis, à très bientôt. Bonne soirée et bon week-end à tous.
Et on vous quitte avec Bob Marley, Stop That Train.
Stop.